Bonjour, bienvenue à cette émission de conférence pectorale. Le pectoral d'Exode 28-15, un enseignement de contemplation, mais aussi d'aspects pratiques pour votre vie chrétienne.
Première pierre du pectoral, troisième tome, que j'ai intitulé « Pierre du nouveau départ ». Notre texte est toujours dans Exode, chapitre 28. On regarde le verset 17 pour cette pierre-là, la première pierre du pectoral. Dieu disait à Moïse au sujet du pectoral, « Tu y enchâsseras une garniture de pierres, quatre rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. » Donc, c'est la sardoine que nous regardons. Comment Ruben, qui signifie « voyez un fils », qui était le nom gravé sur cette première pierre du pectoral, peut faire allusion à un nouveau commencement? Entre les deux femmes de Jacob, Léa était celle qui était la moins aimée, mais elle a enfanté ce premier enfant à Jacob. On voit ça dans Genèse 29, versets 31-32. Et elle l'a appelé Ruben, « voyez un fils ». Rachel, l'autre femme de Jacob, ayant été stérile jusque-là, chacun des patriarches a dans la littérature juive un symbole pour le représenter sur sa bannière. Et Ruben, c'était le signe du soleil levant ou une plante en fleur. Les deux parlent d'un nouveau commencement. Sa pierre précieuse sur le pectoral est la sardoine, en hébreu Rodem, qui vient de la racine Adam, qui signifie rouge. Elle témoigne encore du sang de Christ. Le sacerdoce du sacrificateur oblige le sang du sacrifice. L'Épître aux Hébreux nous le dit de cette façon-ci, dans le chapitre 9, verset 22, où il est dit « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon. » Alors, c'est pourquoi la première pierre du pectoral est rouge, et grâce au sang précieux de Christ, tous sans exception peuvent avoir un nouveau commencement, une nouvelle vie. C'est cette grâce que le Seigneur donne. Alors, grâce à son amour, à son pardon et à la rédemption par son sang. Le premier point qu'on va voir avec cette pierre du nouveau départ, nouveau commencement, un nouveau commencement pour Léa. Celle qui n'était pas aimée a été consolée en ayant ce premier enfant, Ruben. Et c'était pour elle un nouveau commencement. Il ne faut pas oublier que Jacob avait été trompé dès le départ par son beau-père, qui l'avait enivré au moment des noces, et lui avait donné son autre fille, alors qu'il était supposé lui donner Rachel. Celle qu'il aimait, celle qu'il avait demandée. Mais avec cet enfant, Léa pouvait peut-être avoir maintenant un peu plus d'attention de la part de Jacob. Elle devait probablement toujours alimenter cet espoir avec chacun des autres enfants qu'elle lui a donnés aussi par la suite. Elle a conçu quatre enfants et Judas. Et après, Judas, le quatrième, elle n'a plus enfanté. Vous avez le récit dans Genèse chapitre 29. À travers toute la Bible, toutes les saintes écritures, on voit que la polygamie n'était pas le dessein idéal de Dieu pour l'homme. Partout dans l'écriture, la polygamie est vécue dans la douleur. Il y a des rivalités, il y a de la jalousie et des querelles qui amènent toutes sortes de souffrances et de peines. Et ce fut le cas entre Rachel et Léa, ces deux femmes. Cela n'a pas changé aujourd'hui hein, dans les sociétés polygames. Pourtant, dès le début, Dieu avait dit « L'homme, dans Genèse, au chapitre 2, verset 24, s'attachera à sa femme, et non à ses femmes. » Et Christ enseigne la même chose dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, dans le chapitre 19 de l'Évangile de Matthieu, les 10 premiers versets. Lorsqu'un jour Ruben est revenu avec des mandragores, une sorte de fruit aphrodisiaque, Rachel, sa tante, a insisté pour les avoir. Léa, pour bénéficier d'une nuit avec son mari, a accepté l'échange avec les mandragores. Mais elle devait avoir une certaine foi pour faire cela quand même, puisqu'elle a donné ce qui devait l'aider à procréer, ce qui devait aider Rachel à procréer, donc sa sœur. La Bible dit que suite à cette nuit avec son mari, Dieu exauça encore Léa, qui devint enceinte, et l'enfanta un cinquième fils qu'elle appela Issachar. Et elle eut encore après lui deux autres enfants. Le deuxième point, un nouveau commencement pour Ruben. On a vu pour Léa, maintenant pour Ruben. C'est Ruben qui avait amené les mandragores, les fruits, même s'ils ont finalement été pour sa tante Rachel, ça a été un événement déclencheur pour Léa. Parfois, on se demande où va notre fruit, à quoi servent nos labeurs, à quoi sert notre travail. Dieu ne le perd pas de vue et il va accomplir ses desseins dans le temps. Ruben, qui a été l'aîné de toute cette grande famille, a fait des gaffes aussi durant sa vie. Entre autres, il a couché avec Bilha, la concubine de son père, dans Genèse 35, 22. Jacob, juste avant de mourir, va bénir ses fils et il va dire sur Ruben, « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. » Cette servante s'appelait Bilha, qui signifie peur, timidité. Elle était peut-être très dépendante et rudoyée par une autorité trop forte. Juste avant que Ruben commette son geste avec elle, Rachel venait de mourir. Sa maîtresse n'était plus. Pour le reste, on n'a pas de détails. On sait par exemple que Ruben avait de la compassion. Lorsque ses frères ont comploté pour faire mourir Joseph, il est intervenu pour s'opposer et grâce à lui, Joseph a eu la vie sauve, heureusement. Il a eu peut-être cette qualité de compassion, mais qui peut se transformer aussi en passion, là où peuvent s'entremêler l'amour de compassion et le désir charnel. Hein? Le genre humain se reproduisant, il y a certainement parmi nous des personnes qui ont ce comportement semblable à celui de Ruben, où ils doivent gérer un mélange d'impulsion, de compassion. Dieu, par Joseph, son frère, va plus tard sauver Ruben. Hein, comment Dieu renverse les choses et remet les choses, et toute sa famille également avec lui. Il va lui donner un nouveau commencement. On le voit dans Genèse chapitre 45, le premier livre de la Bible, versets 4 à 8. Joseph dit à ses frères, une fois que ses frères étaient revenus en Égypte et lui était rendu le second pharaon, Joseph, ils s'approchèrent et dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé vers vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Wow! Alors, Joseph est une figure prophétique du Mashiach, du Messie, de Jésus-Christ, lui qui va aussi, dans les derniers temps, pardonner aux siens, les Juifs, ses frères, qui l'avaient rejeté. Ce sera une période difficile pour les Juifs dans cette eschatologie, cette période de la fin des temps. Vous pouvez lire par vous-même, consulter les chapitres 12, 13 et 14 du livre de Zacharie, le prophète Zacharie de l'Ancien Testament. Vous verrez tout ce qui est dit par rapport aux événements qui vont se produire dans ce temps-là. Ruben n'a pas vécu au temps d'Aaron et de Moïse. Il n'a pas vu ce pectoral dont nous parlons avec la sardoine rouge, avec son nom gravé dessus. Souvent, les gens ne savent pas ce qu'il manque lorsqu'on leur annonce Christ ou le Messie et qu'ils n'y font pas attention. Mais c'est lui seul qui donne un nouveau départ, qui peut donner ce nouveau départ à travers le pardon que lui donne, la guérison, à travers cette nouvelle vie que lui donne. Il est dit dans 2e Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, l'apôtre disait aux Corinthiens, « Toutes choses sont devenues nouvelles pour ceux qui sont dans le Christ. » En terminant sur cette pierre, la sardoine avec le nom de Ruben, et dont j'ai intitulé « Pierre du nouveau départ », les musulmans considèrent qu'il ne convient pas que les créatures humaines aient une relation d'amour avec Dieu. Je ne sais pas si vous saviez cela, car une telle relation ne peut exister qu'entre des personnes de même rang. Au sujet de la sourate 2.165, Razi, un de leurs commentateurs, explique que pour nous aimer Dieu, ça consiste à aimer et lui obéir et le servir, ou bien encore aimer sa récompense et ses bienfaits. Selon le Coran, Dieu se suffit à lui-même, il n'a nul besoin de qui que ce soit, dans la sourate 10, 68 par exemple. Mais le Dieu, nous, que nous servons, est un Dieu différent, est un Dieu d'amour qui, par amour même pour les plus rebelles, a donné sa vie. Et grâce à lui, le pécheur peut avoir un nouveau commencement. Le pécheur, bien sûr, qui vient dans la contrition, dans la repentance, qui reconnaît sa faute, son péché et son besoin de Dieu afin de se réconcilier avec lui. Il y a quelques années, nous sommes allés entendre le témoignage de Tony Anthony, cet homme qui avait depuis sa jeune enfance été élevé dans la violence. Et il avait été forcé à être formé parmi les arts martiaux des plus exigeants qui existent. Avec ses seuls membres, il était capable de tuer très facilement un homme. En plus d'avoir été 3 fois champion du monde du Kung-Fu, il s'est retrouvé en prison pour vol et violence. C'est là, dans un des pires endroits, et je passe les détails, que Jésus-Christ, lui, a fait connaître son amour. Cet homme qui se considérait comme un déchet, c'est ce qu'il nous a dit lors de son témoignage. Jésus-Christ lui a donné un nouveau commencement, une vie pardonnée, une nouvelle vie en lui. Maintenant, il est, avec ce message merveilleux, cette transformation qu'il a vécue, un témoignage vivant de ce que Dieu a fait pour lui, il parcourt la planète, il donne partout son témoignage. La sardoine rouge, première pierre du pectoral avec le nom de Ruben, dont le symbole sur la bannière qui représentait chaque tribu, n'est-ce pas, était un soleil levant, bien ça peut représenter un nouveau commencement. Ruben l'a expérimenté, lui qui avait goûté à l'amertume du péché. Moïse, longtemps après Jacob, a prophétisé une prophétie beaucoup plus positive sur lui et sur ses descendants. Et il a dit que Ruben vive, qu'il ne meure pas et que ses hommes soient nombreux dans Deutéronome 33, 6. Léa aussi avait eu ce nouveau commencement en ayant ce premier enfant, Ruben. On a vu comment le rouge de cette pierre dans sa constitution chimique et dans l'étymologie de la racine hébraïque, voyez un fils Ruben, hein, peut suggérer le sang du Fils de Dieu en notre faveur, lorsqu'on regarde aussi tous les détails concernant la sardoine. Le souverain sacrificateur offrait le sang des sacrifices pour les péchés. Jésus s'est offert lui-même et il intercède pour nous, pour toi. Voici comment l'apôtre Paul l'exprime. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, Romains 8, 33, 34. Même pour quelqu'un comme Tony Anthony, dans sa prison, dans sa misère, dans sa noirceur.
Bien, chers auditeurs, c'est déjà la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Pour info, vous pouvez consulter notre site Internet à cette adresse www.conférencespectorale.org. Vous pouvez également voir notre local d'exposition de nos maquettes de l'histoire d'Israël à l'adresse arcexposition.wordpress.com. Et vous pouvez joindre Jean-Marc à l'adresse courriel pectoralia@gmail.com. Thank you.